sur l'invitation.
Oui.
Ah. Voilà, on est le 28 avril 2022. Armand Guillot nous parle de la mémoire et l'identité personnelle à partir de la lecture de John Locke, l'essai sur l'entendement, l'essai philosophique sur l'entendement humain.
Très bien. Merci. C'est parti. Donc, merci à Didier Carcin, Philopop, pour l'invitation, pour cette présentation. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous avais envoyé le plan de la séance. La première chose que je dis sur le sujet, c'est que Locke invente le concept moderne de conscience pour résoudre un problème déterminé, celui de l'identité personnelle. Alors, le point de départ de ce problème, il est suivant, c'est qu'il n'y a en nous-mêmes aucun état qui soit fixe, permanent. Pourtant, nous sommes la même personne à différents moments de notre existence. Donc, comment expliquer cette identité, comment expliquer l'identité de la personne ou l'identité du moi, malgré tous les changements qui l'affecte. Alors cette question de l'identité personnelle, elle renvoie à deux choses. On distingue même-té et ipséité. Alors la même-té, c'est ce qui fait qu'une personne est la même à différents moments de son existence, qu'elle reste elle-même malgré les changements qui l'affectent. L'ipséité, ça renvoie à la singularité. C'est ce qui fait qu'une personne est unique, c'est-à-dire elle-même, et pas quelqu'un d'autre. Alors, quand Locke pose la question de l'identité personnelle, il se concentre sur la même-té. Ensuite, disons que pour qu'une personne demeure la même, il faut que quelque chose change et que quelque chose reste. Et donc, c'est ce qui reste, ce qui demeure dans tous les changements du moi, qui pourra fonder son identité. De ce point de vue, il semble inévitable de concevoir l'identité personnelle comme une identité substantielle, c'est-à-dire l'identité d'une substance. La substance, par définition, c'est le substrat ou le support des propriétés. Donc à partir de là, on peut dire que toutes nos propriétés changent, toutes nos qualités physiques, intellectuelles changent, mais la substance, elle demeure. Simplement, Locke précisément entend écarter la question de la substance, il veut écarter le recours à la notion de substance et penser autrement l'identité personnelle. D'accord ? Puisqu'il considère que la substance, elle est inconnaissable, et donc on ne peut pas fonder dessus l'identité personnelle. Donc si on détermine encore un peu plus la question, elle sera la suivante, c'est comment penser le fondement de l'identité personnelle sans faire appel à une substance, c'est-à-dire à un substrat permanent des propriétés du moi. Pour résoudre le problème, il faut commencer par partir d'une définition rigoureuse de la personne. Définition que Locke nous donne au chapitre 27 du livre 2. Ça doit être dans les textes que j'ai donnés. Voilà, c'est le paragraphe 9. Alors, donc, paragraphe 9, alors la deuxième feuille, c'est un texte de Bergson, j'espère que j'aurai le temps d'en parler. Mais on commence par les textes de Locke, qui sont les extraits du chapitre 27 du livre 2, chapitre que Locke a intitulé « Identité et différence ». Et donc au paragraphe 9, il définit la personne, il nous dit « C'est, je pense, un être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion, et qui peut se considérer soi-même comme soi-même, une même chose pensante, en différents temps et différents lieux. Donc, sur cette définition, on peut faire plusieurs remarques. D'abord, c'est qu'on retrouve la définition classique de l'être humain, c'est-à-dire la définition héritée d'Aristote, selon laquelle l'homme est un animal raisonnable. D'accord ? Animal raisonnable, chez Locke, la formule est la suivante, un être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion. Toutefois, en réalité, c'est la seconde partie de la définition qui permet de caractériser la personne et qui constitue vraiment une innovation. C'est-à-dire que la définition de la personne ne se réduit pas à la définition de l'homme, à la définition de l'homme comme animal raisonnable. La personne est définie par une faculté distinctive qui n'est pas à la raison, qu'on ne peut pas identifier à la raison. C'est la faculté de se considérer soi-même comme soi-même, une même chose pensante en différents temps et différents lieux. Cette faculté, Locke l'appelle la conscience, puisqu'il écrit « ce qui provient uniquement de cette conscience qui est inséparable de la pensée ». Alors, ici, on a dans ce petit passage un usage nouveau du terme de conscience en tant que substantif. Donc l'anglais, c'est « consciousness ». Et le premier traducteur de Locke, qui est Pierre Coste, qui fait une traduction du texte en 1700, il est gêné avec ce passage et traduit « consciousness » par « le sentiment qu'il a de ses propres actions ». Donc en 1700, le traducteur dit « le sentiment » plutôt que la conscience. Parce qu'à ce moment-là, en français, au XVIIe et donc au début du XVIIIe siècle, le substantif conscience renvoie toujours à la conscience morale. Or là, on voit bien qu'il ne s'agit pas de la conscience morale. D'où la difficulté de traduction et le recours au terme de sentiment. Même si dans la suite de la traduction, c'est bien Pierre Coste lui-même qui, en traduisant l'essai, va introduire dans la langue française l'usage moderne du terme conscience. Donc, l'essence de la pensée, c'est la conscience. De ce point de vue, la raison ne serait qu'une faculté particulière. Cette conscience, d'emblée, elle correspond à une relation d'identité et d'identité à soi-même. La conscience, elle est immédiatement conscience de soi. C'est une relation de soi à soi. Et donc la pensée se rapporte toujours à elle-même comme identique à elle-même. Pourtant, cette identité, elle est très paradoxale, parce que Locke nous dit par ailleurs que la pensée se caractérise par une perpétuelle différenciation. Pourquoi ? Eh bien, parce que aucune idée ne demeure longtemps présente à notre esprit. Nous passons sans cesse d'une idée à l'autre, d'une sensation à l'autre, sous l'effet de ce que Locke appelle malaise ou inquiétude. Là, l'anglais, c'est uneasiness. Donc il y a un malaise, une inquiétude qui accompagne chacun de nos états de conscience. Et c'est ce malaise ou cette inquiétude qui fait que notre pensée est active. Et donc elle n'est jamais fixée, arrêtée sur une idée, mais qu'elle passe sans cesse de l'une à l'autre. D'accord ? C'est comme un inconfort qui fait que la pensée n'est jamais en repos. Et une pensée qui n'est jamais en repos, c'est une pensée qui passe sans cesse d'une sensation à l'autre et d'une idée à l'autre. Pour justifier cette idée, Locke souligne affirme qu'il n'y a pas d'état intermédiaire entre le plaisir et la douleur. Il n'existe aucun état d'esprit, aucun état de conscience qui soit neutre sur le plan affectif ou affectivement neutre. Donc toute idée suscite un plaisir ou une douleur. Donc toute idée entraîne une forme de contentement ou au contraire une forme de malaise. Une fois qu'il a établi ce point, Locke insiste sur le malaise pour justifier cette idée que la pensée en fait est toujours active. Alors, s'il insiste sur le malaise, donc sur la douleur, hein, plutôt que sur le plaisir, c'est parce que ce malaise, il est consubstantiel au désir. Le désir, ce n'est que l'absence d'un bien, et l'absence d'un bien se traduit par un malaise, une inquiétude. Donc notre pensée est toujours marquée, affectée par l'absence du bien, qui se traduit par le malaise, et qui fait qu'elle est tout le temps active, donc elle se différencie en permanence. Donc la question est de savoir comment une pensée qui se différencie sans cesse peut dans le même temps rester, demeurer identique à elle-même. Et surtout, comment une pensée qui se différencie sans cesse peut s'appréhender elle-même comme identique à elle-même. Alors, la conscience est toujours présente. Ça, c'est la suite. La conscience est inséparable de la pensée, essentielle à la pensée. Donc la conscience est présente dans toute pensée, ou avec toute pensée. Elle accompagne chacun de nos états en ce qui concerne l'esprit. Donc on voit qu'elle peut jouer le rôle d'élément commun à tous les états de la pensée. Elle est l'élément permanent, donc celui qui peut les relier en une seule personne. En fait, il y a une identité pour Locke entre pensée et conscience qui est pratiquement évidente pour lui, même si elle sera très rapidement remise en question par d'autres philosophes, par la Nietzsche par exemple. Mais Locke, comme Descartes un peu, il affirme cette identité entre pensée et conscience et considère que c'est quelque chose que chacun peut constater en lui-même ou que c'est une question de définition, puisqu'il écrit, c'est toujours le paragraphe 9 hein, qui est très important, « Il est impossible à quelqu'un de percevoir sans percevoir aussi qu'il perçoit. » Autrement dit, on ne peut pas percevoir sans être conscient de percevoir. On ne peut pas imaginer une chose sans être conscient de l'imaginer, sans savoir qu'on l'imagine. On ne peut pas redouter une chose sans savoir qu'on la redoute. Alors, ensuite, l'idée, c'est que le titre, la question, c'est est-ce que la mémoire fait l'identité ? Pour l'instant, on a parlé de la conscience. Mais évidemment, conscience et mémoire sont indissociables. On a dit, il y a en fait une identité entre pensée et conscience. Et donc, la conscience est essentielle à tous les actes de la pensée. Mais de la même façon, la mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l'esprit. Locke considère que toutes les opérations de l'esprit consistent en relation d'idées. Une opération, un acte de l'esprit consiste à mettre en relation des idées. Or, une relation entre des idées, quelle qu'elle soit, n'est possible que si une idée est maintenue présente à l'esprit au moment où nous en considérons une autre. D'accord ? Évidemment, si on considérait chaque idée pour elle-même en ayant oublié les autres, aucune comparaison, aucune mise en relation n'est possible. Donc en fait, toute opération de l'esprit suppose une forme de rétention des idées, donc une intervention de la mémoire comme faculté active. Si bien que le fondement de l'identité personnelle, c'est la mémoire. Disons que la mémoire, ici, elle actualise ou elle réactualise des perceptions passées. C'est-à-dire, la mémoire, elle opère un passage du virtuel à l'actuel. C'est-à-dire qu'elle réactive des idées et des perceptions qui sont passées. Mais de plus, avec la perception passée en elle-même, la mémoire réactive la perception que cette perception appartient au passé. D'accord ? C'est-à-dire qu'évidemment, pour qu'on puisse parler de mémoire, il faut rappeler une perception, rappeler une idée, donc les rendre présentes à l'esprit, mais dans le même temps, il faut les identifier, les reconnaître comme des perceptions, des idées passées. Donc il y a deux choses, on réactualise une perception, première chose, et on la perçoit comme passée. Donc, disons que dans la mémoire, finalement, ce qui se passe, c'est que la conscience se reconnaît elle-même, ou que la conscience se retrouve elle-même. D'accord ? Elle ne fait que se retrouver. Si bien que se souvenir d'une idée ou se souvenir d'une perception, c'est les reconnaître comme siennes. C'est se les attribuer et pouvoir en répondre. D'accord ? C'est-à-dire que quand nous nous souvenons d'une idée, dans le même temps, nous la reconnaissons comme notre idée. Nous nous l'approprions. Et puisque nous nous approprions cette idée, nous pouvons en répondre. Et ça, c'est un élément essentiel pour Locke, parce que pour lui, personne, le mot personne, est un terme du vocabulaire juridique. C'est-à-dire qu'on a l'air de traiter un problème qui est purement théorique, et qui en réalité est un problème pratique, voire juridique. Ça, c'est le paragraphe 26. Ouais, donc c'est clair, hein. La personne, terme judiciaire. Et Locke précise, le mot personne, tel que je l'emploie, est le nom de ce soi. Partout où un homme découvre ce qu'il appelle lui-même, un autre homme, ce me semble, pourra dire qu'il s'agit de la même personne. Voilà le passage qui m'intéresse. C'est un terme du langage judiciaire qui assigne la propriété des actes et de leurs valeurs. Et comme tel, n'appartient qu'à des agents doués d'intelligence, susceptibles de reconnaître une loi et d'éprouver bonheur et malheur. D'accord ? Donc c'est aussi peut-être voilà, quelque chose qu'on peut garder à l'esprit. C'est un peu une parenthèse quand on fait des comparaisons entre l'homme et l'animal, qu'on se demande si les animaux sont doués de conscience, si certains peuvent être considérés comme des personnes. Ben, au moment où Locke pose la question de l'identité personnelle, il considère qu'être une personne, c'est pouvoir répondre de ses actes, c'est-à-dire pouvoir être jugé, d'accord ? C'est-à-dire faire l'objet d'un procès. Ici, on voit que une action dont je n'ai pas conscience, une action dont je ne peux pas me rappeler, ne peut pas m'être imputée par autrui. On ne peut pas m'imputer cette action parce que je ne peux pas me l'imputer à moi-même en vue d'en répondre. D'accord ? On ne peut pas m'imputer une action dont je ne pourrais pas répondre. Et Locke va jusqu'à écrire « Toute action qu'un être conscient ne peut pas accorder ou approprier à ce soi actuel par la conscience ne peut pas plus l'intéresser que si elle n'avait jamais existé. » D'accord ? C'est-à-dire que pour le soi, une action dont il n'a pas eu conscience et dont il ne peut pas se rappeler, ne peut pas plus l'intéresser que si elle n'avait jamais existé. Autrement dit, elle ne fait pas du tout partie de lui-même ou de ce qu'il peut considérer comme lui-même. Alors, donc ici, on voit que la théorie lockéenne de la personne, elle répond quand même à une finalité morale et juridique. Il y a plusieurs commentateurs qui soulignent qu'il est difficile d'articuler les textes de Locke, qui sont des textes purement politiques, de ces textes plus métaphysiques qui portent sur l'identité personnelle. Mais il y a au moins un point commun, c'est la notion d'appropriation. Parce que voilà, cette notion elle a un double sens, une double signification, dont Locke va tirer parti. Ce que l'on reconnaît comme sien, ce que l'on s'approprie, c'est à la fois une qualité qui nous définit et une chose qui nous appartient en propre. Et donc dans ses traités politiques, Locke considère qu'une personne est propriétaire d'elle-même. C'est le principe de la propriété de soi. Chacun est propriétaire de lui-même. Alors, pour rester sur la question de l'identité personnelle, il y a tout de suite une difficulté. C'est que deviennent les moments de notre existence que nous ne pouvons pas nous approprier. C'est-à-dire des moments de notre existence qui échappent absolument à notre mémoire et qui pourtant sont déterminants pour notre identité, déterminants pour qui nous sommes ou pour notre caractère. Ce serait notamment le cas des moments de la petite enfance. C'est un lieu commun de dire que les moments de la petite enfance sont déterminants dans la constitution d'une personnalité. Or, ce sont des moments qui échappent absolument à la mémoire. D'accord ? On ne peut pas s'en rappeler. Ce sont les autres qui nous les racontent. Mais du point de vue de Locke, le fait que les autres nous racontent un moment de notre existence ne nous permet pas de nous l'approprier. Si je ne peux pas m'en souvenir, ce n'est pas parce qu'on me raconte cet événement que je le reconnais comme quelque chose qui m'est arrivé. C'est-à-dire, je ne peux pas en répondre, en fait. Donc, il y aura inévitablement une discontinuité de l'identité personnelle, qui est quand même problématique, comme des trous, des interruptions dans l'identité personnelle. Apparemment, la solution est simple. Il faut considérer que l'identité repose sur le corps plutôt que sur l'esprit ou la conscience. Parce que s'il y a dans notre existence des moments d'inconscience, il n'y a aucun moment durant lequel notre corps n'existe pas. Donc c'est notre corps qui est permanent et la conscience intermittente. Donc pourquoi pas fonder l'identité personnelle sur la continuité du corps ? Locke refuse de le faire, pour plusieurs raisons. Pour démontrer que l'identité de la personne ne peut pas reposer sur le corps, Locke a notamment recours à une expérience de pensée, qui est assez caractéristique de sa manière de philosopher. Il multiplie les expériences de pensée qui parfois sont un peu étranges, déstabilisantes. Ici, alors le paragraphe est un peu long, mais c'est paragraphe 17. Il imagine un corps, c'est-à-dire un corps organique, qui serait séparé en deux parties, à savoir le petit doigt d'un côté, le reste du corps de l'autre. Il dit, dans ce cas, la division du corps en deux parties ne correspond pas à une division du soi. Ce n'est pas parce que le corps est divisé en deux parties que le soi ou la personne est divisé en deux parties. Donc il y a une division du corps, mais pas une division de la personne. Cela dit, malgré la séparation entre le petit doigt et le reste du corps, l'unité organique demeure. La perte d'un petit doigt ne compromet pas l'unité du corps organisé, l'unité de l'organisation elle-même. Donc pourquoi pas, après tout, considérer le corps comme fondement de l'identité. Locke dit la chose suivante, je ne sais pas si je vais retrouver le passage facilement. Si ce petit doigt était coupé, et si la conscience partait avec lui, en délaissant le reste du corps, le petit doigt serait évidemment la personne, la même personne, et le soi n'aurait alors aucun rapport avec le reste du corps. Dans ce cas, quand une partie est séparée du corps, ce qui fait la même personne et constitue le soi inséparable, c'est la conscience qui accompagne la substance, ici le corps. Donc en fait, ce qui compte, c'est le corps auquel la conscience est associée. Ce qui fait la même personne, ce n'est pas le même corps, c'est la même conscience. Donc, l'identité personnelle doit être détachée, déconnectée de la permanence de la vie organique. On peut imaginer d'autres expériences de pensée qui le prouvent. Si on prend par exemple la théorie de la réincarnation. La théorie de la réincarnation, elle suppose que la même âme habite différents corps. Et donc ces corps différents, ce sont des substances qui sont éloignées dans le temps. Et donc, dans le cas d'une série, d'une suite de réincarnations, on a la même âme qui habite à chaque fois un nouveau corps. Est-ce qu'on a à chaque fois une nouvelle personne ? Est-ce qu'on a à chaque fois une personne différente ou toujours la même personne ? Eh bien, ça ne dépend ni du corps ni de l'âme, nous dit Locke, mais uniquement de la mémoire. Alors, si on imagine que la même âme se trouve successivement dans le corps de Socrate, puis dans celui d'Aristote. S'il était impossible à Aristote de se souvenir d'une seule des actions de Socrate, alors Socrate et Aristote ne constitueraient pas une seule et même personne. Pourquoi ? Parce que Aristote ne pourrait pas s'approprier les actions de Socrate. Il ne pourrait pas les considérer comme siennes. Donc, ici, vous voyez, on a un exemple un peu différent. On a deux corps différents, mais la même âme. Mais ce n'est pas l'âme qui va faire l'identité personnelle, parce que réciproquement, puisque Aristote, si Aristote n'est pas capable de se souvenir des actions de Socrate, ils partagent la même âme, mais ils sont deux personnes différentes. Donc on a une âme et deux personnes. Donc il faut distinguer l'âme et la conscience. L'âme, c'est une substance, la conscience, ce n'est qu'une propriété, ce n'est qu'une modalité qui peut s'attacher à des substances différentes. D'accord ? Donc la conscience est une propriété, une modalité qui peut tout à fait accompagner ou s'attacher à des substances différentes, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'un corps ou qu'il s'agisse d'une âme. Donc, l'identité substantielle, l'identité de la substance, n'est pas nécessaire à l'identité personnelle. L'identité personnelle, elle peut être fondée, être réelle, indépendamment de la permanence d'une substance. Ce qui veut dire aussi qu'il n'est pas nécessaire de connaître la nature ou l'essence du moi pour en comprendre l'unité et la continuité. Alors, en fait, pour être précis, Locke distingue deux formes d'identité, ce qu'il appelle identité de l'homme et identité de la personne. Le même, le corps est le fondement de l'identité de l'homme. Si c'est le même corps, c'est le même homme. La conscience est le fondement de l'identité personnelle. Si c'est la même conscience, c'est la même personne. Donc on a l'unité de l'organisation, l'unité du corps organique qui fonde l'identité de l'homme et l'unité de la conscience qui fonde l'identité de la personne. Du coup, voilà, si on peut multiplier les expériences de pensée qui distingueraient les deux, on peut avoir deux personnes, on peut avoir réellement, positivement, deux personnes en un seul homme. Si on a deux consciences et deux mémoires distinctes attachées au même corps, on a réellement deux personnes en un seul homme. Alors, donc voilà, donc la thèse c'est que l'identité de la personne s'étend aussi loin que la mémoire peut atteindre, ou encore que la personne comprend ou inclut dans son identité tout ce que la mémoire peut atteindre. Le plus souvent, bien sûr, il s'agit d'une mémoire potentielle, c'est-à-dire une mémoire qui est simplement possible. Il suffit qu'il soit possible qu'une personne se souvienne d'une action pour qu'on puisse lui imputer légitimement cette action. Donc, d'une manière générale, on peut imputer à un individu toutes les actions dont il a conscience et dont il a eu conscience. Or, on a vu que la mémoire et la conscience passée, en fait, c'est la même chose. Mais en faisant cette précision, Locke répond par avance à une objection possible. Il résout ou il entend résoudre une difficulté impliquée à la fois par sa conception de l'identité personnelle et par sa conception de la responsabilité. Ce qui nous dit, une personne est responsable des actes dont elle se souvient ou des actes que sa mémoire peut atteindre. Or, une personne pourrait tout à fait feindre de ne pas se souvenir d'une action afin que celle-ci ne lui soit pas imputée. Or, il est impossible de déterminer si une personne se souvient réellement ou non d'une action. Si on veut juger un individu pour une action qu'il a commise, il peut prétendre qu'il ne s'en souvient pas. Comment prouver qu'il s'en souvient ? C'est impossible. Donc il suffit qu'il ait été conscient au moment de l'action pour qu'on lui impute en toute légitimité. Donc, identité personnelle et responsabilité reposent sur une mémoire possible, sur la mémoire virtuelle. Cela dit, des actions qui seraient accomplies en état d'inconscience ne pourraient pas être légitimement imputées à un individu. Il nous reste donc les difficultés soulevées par l'inconscience elle-même. S'il est impossible d'imputer à une personne les actions dont elle n'a pas conscience ou dont elle n'a pas eu conscience. Alors, l'inconscience peut servir d'excuse. Il serait par exemple, c'est les exemples que prend Locke, on va y revenir, serait par exemple impossible de punir l'homme dessoulé pour les actes de l'homme saoul. Locke écrit ses paragraphes 22, mais un homme saoul et un homme sobre ne sont-ils pas la même personne? Sinon, pourquoi un homme est-il puni pour ce qu'il a commis quand il était saoul, même s'il n'en a plus conscience ensuite? Locke répond, c'est la même personne dans l'exacte mesure où un homme qui marche et fait d'autres choses encore pendant son sommeil est la même personne et est responsable de tout dommage causé alors. Donc il y a l'homme saoul qui serait dans un état d'inconscience et qui ne pourrait pas se souvenir des actes qu'il a commis en état d'ivresse, où il y a l'homme somnambule, celui qui a agi alors qu'il était endormi, donc qui a agi dans un état d'inconscience et qui ne pourrait pas se souvenir des actes qu'il a commis en dormant. Là, de manière un peu étonnante, Locke nous dit que on peut imputer à l'homme sobre les actions de l'homme saoul. On peut imputer à l'homme réveillé les actions de l'homme endormi. Pourquoi ? Parce que les lois humaines punissent les deux, là je lis encore le paragraphe 22, les lois humaines punissent les deux selon une règle de justice qui s'accorde à leur mode de connaissance. Ne pouvant dans des cas de ce genre distinguer avec certitude ce qui est vrai et ce qui est fin, elles ne peuvent admettre comme défense valable l'ignorance due à l'ivresse ou au sommeil. Car bien que le châtiment soit attaché à la personnalité et la personnalité à la conscience, et que peut-être l'ivrogne n'ait pas conscience de ce qu'il a fait, les tribunaux humains, cependant, le punissent à bon droit. Parce que contre lui, il y a la preuve du fait, tandis qu'en sa faveur, il ne peut y avoir la preuve du manque de conscience. Donc en fait, on est renvoyé exactement au même argument. On peut prouver qu'un homme en état d'ébriété ou qu'un homme peut-être endormi a commis certaines actions. Il peut répondre qu'il était dans un état d'inconscience, mais il ne peut pas le prouver. Donc contre lui, il y a la preuve du fait, les actions qu'il a accomplies, et en sa faveur, il n'y a aucune preuve possible. Mais là, c'est quand même plus gênant. C'est quand même plus gênant parce qu'il est tout à fait possible qu'il se soit trouvé dans un état d'inconscience. D'ailleurs, Locke le dit. Donc il serait parfaitement injuste de punir un homme pour ce qu'il a commis dans un état d'inconscience, parce qu'il ne peut pas s'approprier ses actions et en répondre. Et donc là, on a une difficulté que Locke ne résout pas, ou qu'il résout, mais en faisant appel à Dieu. C'est la fin du paragraphe 22. Mais tout va bien, ça c'est moi qui l'ajoute, tout va bien parce que au jour du jugement dernier, quand les secrets de tous les cœurs seront mis à nu, on peut raisonnablement penser que personne ne sera tenu de répondre pour ce dont il n'a pas eu connaissance. Mais il recevra le verdict qui convient, sa seule conscience l'accusant ou l'excusant. Alors, il y a le jugement de Dieu, mais qui est équivalent aussi au jugement de la conscience morale. C'est-à-dire, on a dit la condition pour que quelqu'un d'autre puisse m'imputer une action, c'est que je puisse me l'imputer à moi-même. D'accord ? Donc, on peut me reprocher une action parce que je peux me la reprocher à moi-même. Donc, Dieu intervient pour rendre à chacun la totalité de ses souvenirs. Mais même dans ce contexte, c'est notre conscience qui nous accuse ou qui nous excuse. Bon, il reste qu'on a un recours à l'idée de Dieu pour résoudre une difficulté théorique, pratique, pour résoudre une difficulté philosophique. Ce recours rattache sans doute Locke à la philosophie du Moyen-Âge. C'est-à-dire que ça manifeste qu'il est un auteur entre deux époques. Il se situe à la transition entre deux époques et il réalise lui-même cette transition. Il contribue lui-même à réaliser cette transition sans aller jusqu'au bout, sans pouvoir l'achever. C'est-à-dire la transition du Moyen-Âge à la modernité. Bon, grossièrement, de transition d'une philosophie qui peut se fonder sans difficulté sur l'idée de Dieu à une philosophie séculière. Parce que, du point de vue de Locke, ce n'est pas un problème de faire appel au jugement dernier. C'est tout à fait légitime dans un cadre philosophique, dans le cadre d'une argumentation rationnelle. C'est-à-dire que, de son point de vue, il ne contrevient pas aux exigences de l'argumentation rationnelle en disant que le problème qui reste sera résolu après cette vie, au moment du jugement dernier. Et ça, évidemment, c'est un argument qu'un philosophe vraiment moderne ne pourra pas accepter, dont il ne pourra pas se contenter. D'où l'idée, dans un troisième temps, d'évoquer la façon dont la modernité a pu résoudre des problèmes qui sont hérités de Locke. Alors j'ai pensé à Bergson, c'est le texte de Bergson, parce que je crois que vous avez déjà travaillé sur Bergson et la mémoire. Donc c'est pour ça que ça pouvait être intéressant là, de rapprocher les deux. Alors Bergson, lui aussi bien sûr, mais comme tous les philosophes qui réfléchissent sur la question, il est confronté au problème de la discontinuité apparente de la personne. Mais Bergson va placer le fondement de l'identité personnelle, je ne sais pas s'il faudra encore dire identité personnelle, bien, gardons l'expression pour l'instant, il va placer le fondement de l'identité personnelle dans le caractère plutôt que dans la conscience. Pourtant, malgré tout, malgré ce changement de fondement, ce déplacement de la conscience vers le caractère, eh bien la mémoire conserve le même rôle, ou un rôle similaire. En réalité, derrière la notion de caractère, c'est bien la mémoire qui demeure fondement ou principe de l'identité personnelle. Simplement, mémoire et conscience sont désormais distingués. On peut dire aussi que la mémoire cesse d'être consciente, ou en tout cas, la mémoire cesse d'être nécessairement consciente, ou elle cesse d'être nécessairement consciente de façon distincte. Bon, disons que la mémoire cesse d'être consciente en cessant d'être active, c'est-à-dire en cessant, avec Bergson, d'être une activité de l'esprit. Dans le texte de Bergson, extrait de l'évolution créatrice que je vous ai donné pour ce soir, Bergson commence par dire « Le passé se conserve de lui-même automatiquement. Donc ce n'est pas une activité de l'esprit. La conservation, la rétention du passé, des perceptions passées, n'est pas une activité de l'esprit. » Parce que, en réalité, d'elle-même, ou de lui-même, le passé demeure. Il reste présent. Alors, insistons un peu sur ce point. La résolution du problème qui est hérité de Locke, peu importe d'ailleurs que Bergson le conçoive ou non comme un problème hérité de Locke, c'est la philosophie qui en hérite, hein. Donc la solution du problème de l'identité personnelle héritée de Locke passe par la remise en cause d'un des postulats de Locke, du postulat fondamental de l'identité ou de l'équivalence entre la pensée et la conscience. Alors bien sûr, Bergson part d'une question un peu différente, qui pourrait être, par exemple, comment expliquer que nous puissions nous rappeler, nous souvenir du passé. Comment expliquer que nous puissions rappeler des faits ou des événements qui appartiennent au passé et les rendre à nouveau présents à notre esprit? Si le passé n'était plus, en aucune façon, si le passé avait purement et simplement disparu, il serait impossible de s'en souvenir. Quand aucune opération de l'esprit ne pourrait faire exister une chose à partir du néant. Donc si le passé ne se conservait pas de lui-même, alors il n'y aurait rien dont nous puissions nous souvenir. Il n'y aurait rien dont nous pourrions former une image ou une représentation. Donc ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas le souvenir, c'est l'oubli. D'accord ? Ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas comment nous pouvons ressaisir le passé, mais comment nous l'oublions. C'est-à-dire comment nous le dissimulons ou comment nous le chassons en dehors de notre conscience. Bergson souligne que si nous maintenons le passé en dehors de notre conscience, c'est pour nous concentrer sur les circonstances présentes. C'est-à-dire pour répondre aux exigences de l'action. Et c'est le rôle de ce que Bergson appelle le mécanisme cérébral. Donc le mécanisme cérébral, il fait que notre attention est dirigée et concentrée sur les circonstances présentes, c'est-à-dire sur les éléments qui intéressent l'action qui est en train de s'accomplir. D'accord ? Nous devons nous concentrer sur le présent pour faire, dit Bergson, un travail utile. Évidemment, se concentrer sur le présent, c'est écarter le passé. Donc le passé demeure en nous, mais il est inconscient. D'accord ? Inconscient signifiant ici au minimum ne pas être présent de manière distincte à la conscience. D'accord ? Donc évidemment, nous pouvons nous représenter certains événements du passé de façon distincte, mais la plupart demeurent en nous de façon indistincte. Alors, sous quelle forme ? S'ils ne demeurent pas en nous de façon distincte, c'est qu'ils demeurent en nous de façon indistincte, c'est-à-dire qu'ils sont condensés, qu'ils sont mêlés les uns aux autres, qu'ils sont fondus les uns dans les autres. Alors, je sais pas, un peu comme des couleurs qui se mélangent pour en former une seule. D'accord ? Si on mélange différentes couleurs, le résultat, c'est une couleur unique. Or, les couleurs diverses dont elle est formée sont présentes en elle, mais présentes de manière indistincte. Il est possible après coup, imaginons que ce soit possible après coup de les séparer pour percevoir chacune distinctement. Bon, ben c'est de la même manière que notre passé est en nous. C'est-à-dire que notre passé forme notre caractère, ou encore notre caractère n'est que la condensation de la totalité de nos expériences passées. Et il est aussi ce que nous sommes. Donc, notre passé, par l'intermédiaire de notre caractère, ne se manifeste pas seulement dans nos souvenirs. Il se manifeste aussi au travers de nos désirs, de nos tendances. C'est-à-dire que notre sensibilité, notre attitude, ici et maintenant, dépendent de tout ce que nous avons vécu par le passé. Et là, on a un moyen d'intégrer dans l'identité de la personne, et peut-être en un autre sens, hein, on a un moyen d'intégrer dans l'identité d'une personne ou d'intégrer dans une personnalité les moments de son existence que sa mémoire ne peut pas atteindre, mais dont on ne peut pas nier l'importance pour autant. De plus, de cette façon, on peut également rendre compte de l'identité comme ipséité, c'est-à-dire de l'identité comme singularité, comme ce qui fait que un individu est lui-même différent de tous les autres. Parce qu'évidemment, il n'y a pas deux individus qui aient vécu exactement les mêmes choses au même moment. Il n'y a pas deux individus qui aient un passé strictement identique. Donc, puisque nous sommes notre caractère, et que notre caractère est notre passé, chacun d'entre nous est unique. Et là, on peut vraiment rendre compte de l'ipséité du moi. Alors, pour une part, hein, c'est des critiques qui existent très tôt, notamment que Leibniz a pu formuler dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain, où Leibniz dit à propos de Locke que Locke lui-même ne peut pas prendre tout à fait au sérieux l'identité stricte entre la pensée et la conscience. Parce que si on identifie strictement pensée et conscience, il devient impossible en fait de rendre compte de la mémoire. C'est un problème qui est apparu très tôt. Si toutes les perceptions par définition sont conscientes, que deviennent les perceptions passées qui ne sont plus présentes à notre esprit? Ce sont des perceptions, elles ne sont pas présentes distinctement à l'esprit, donc elles doivent bien être, d'une manière ou d'une autre, inconscientes. Et là, très tôt, Leibniz pointe une incohérence chez Locke. Et puis, il lui oppose l'idée que il n'y a pas d'interruption de la pensée, qu'il y a toujours en nous des perceptions, mais elles peuvent être de petites perceptions, c'est-à-dire des perceptions inconscientes, au sens de perceptions qui ne sont pas distinctement conscientes, c'est-à-dire qui ne sont pas présentes à l'esprit de manière manifeste. Notamment, hein, c'est parce que Locke assume les discontinuités de l'identité personnelle, mais Leibniz lui fait remarquer que même lorsque nous sommes endormis, nous sommes affectés par les objets extérieurs. Les objets extérieurs nous affectent puisqu'ils agissent sur nos sens. Et dans la mesure où des objets extérieurs agissent sur nos sens, nous avons nécessairement, nous avons par définition des sensations, donc des perceptions. Donc de la permanence du corps, de la continuité du corps, Leibniz déduit la continuité, la permanence de la perception. Puisque nous avons en permanence un corps et des sens, nous avons en permanence des sensations, des perceptions. Et dans la mesure où il y a dans notre existence des moments d'inconscience, eh bien, toutes nos perceptions ne sont pas conscientes. D'accord ? Donc on voit finalement que c'est le point de départ de Locke qui très tôt est remis en question, parce que si vous reprenez la définition, ce qui fait qu'une personne peut se considérer elle-même comme la même en différents temps, c'est uniquement la conscience. D'accord ? Alors, que peut-on retenir de Locke comme héritage positif, disons? Alors, évidemment, j'ai signalé très tôt le concept moderne de conscience. Donc, c'est lui qui a introduit le concept moderne de conscience en distinguant radicalement la conscience et la conscience morale et en faisant de la conscience une faculté ou une modalité par lequel le moi se rapporte à lui-même. Parce que la conscience, comme il l'a définie, n'est pas la conscience morale, mais elle est immédiatement conscience de soi. Et donc c'est bien ça le concept moderne de conscience. Voilà, après, comme j'avais mis dans le sommaire, est-ce que nous pouvons résoudre, dans le cadre d'une philosophie de la conscience, toutes les questions, tous les problèmes que nous héritons de John Locke? Ça, c'est moins évident. Peut-être qu'il ne s'agit pas forcément de trancher. Et on peut retenir aussi de Locke une manière de philosopher, à savoir l'expérience de pensée. Par exemple, le petit doigt qui se retrouve séparé du reste du corps, qui s'en va vivre sa vie avec la conscience et la totalité des souvenirs. Pourquoi est-ce que c'est important, ces expériences de pensée? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas anecdotiques? Parce que dans l'esprit de Locke, l'expérience de pensée, elle permet d'introduire en philosophie les principes et les procédés de la méthode expérimentale. D'accord ? Il s'agit ni plus ni moins que d'introduire la méthode expérimentale en philosophie. Et donc, de ce point de vue, de faire de la philosophie une science, ou de conférer à la philosophie une rationalité scientifique. Parce que, en fait, sur toutes les questions qu'on a abordées, les expériences qui permettraient de trancher les débats philosophiques sont des expériences qui ne peuvent pas être réalisées dans les faits. Mais à défaut de les réaliser dans les faits, nous pouvons les réaliser sous forme de fiction. Et ces fictions, elles fonctionnent comme des tests expérimentaux qui permettent de confirmer ou d'invalider une hypothèse. Par exemple, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, si on réfléchit un peu au passage de Locke, si on les aborde de manière réflexive, si on part de l'hypothèse que c'est la permanence du corps ou la permanence de l'âme qui fonde l'identité personnelle, cette hypothèse, elle peut être écartée, elle peut être réfutée par une expérience de pensée. Donc on parle d'une hypothèse réfutable et on peut réaliser la réfutation à l'aide d'une expérience de pensée. Donc on a vraiment introduit la méthode expérimentale en philosophie et c'est aussi ça qui inaugure la modernité philosophique, la modernité en philosophie. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis un peu...
Merci Armand. Donc, merci beaucoup. Et donc, les questions.
C'était un peu court, pardon, je peux.
Non,
peut peut-être été vite.
Donc, vos questions. Je vais peut-être poser une question à ce moment-là.
Je t'en prie.
Pour entrer en matière.
Oui.
Tu parlais de. Fond du rôle des expériences de pensée.
Oui.
Pour essayer d'illustrer, mettre à l'épreuve, au fond, sa thèse. Je pensais à un roman, je crois que c'est Stevenson.
Oui, Dr. Jekyll et
Mr. Hyde. Parce que ce n'est pas une parfaite illustration, au fond, de la thèse de Locke. Hein, parce que le même homme, mais deux personnes. Hein? On a affaire au même homme, parce que
c'est ça.
Physiquement, de l'extérieur, c'est le même. Nous ne sommes pas à l'intérieur de chacun des deux. Et par conséquent, quand la police vient l'arrêter pour... Enfin, je ne sais plus qui est qui, d'ailleurs. Celui qui est gentil, c'est lequel? C'est Jekyll. Oui. C'est ça. Quand on vient l'arrêter.
Ben c'est Hyde, c'est caché. C'est
celui qui est caché. Pour le crime que Hyde a fait, ben, Jekyll est sincère quand il dit ben, qu'est-ce qui se passe.
Oui, mais alors, c'est aussi. Ça, c'est un problème moral, c'est un problème de responsabilité parce que le docteur Jekyll lui-même est obsédé par sa double personnalité. Donc, il a une forme de conscience de sa double personnalité. Et si je ne me trompe pas, il essaie de mettre au point une drogue qui séparerait radicalement ces deux personnalités avec l'idée que s'il parvenait à couper totalement la conscience de l'un et la conscience de l'autre, lui, docteur Jekyll, n'aurait pas assumer les actes de Mr. Hyde. Et donc, le bon, le juste, le docteur, pourrait être délivré de toute culpabilité. Et sa noirceur sera abandonnée à une autre personne. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a déjà là la recherche d'une excuse, d'une déresponsabilisation appuyée sur l'inconscience. Voilà, ça. Après, oui, il y a des transformations du corps aussi, mais alors, ce que Locke dit, je n'ai pas développé, c'est que l'unité du corps organique, elle ne vient pas de la permanence des parties. Les parties du corps se transforment en permanence. Et d'ailleurs, le corps peut perdre certaines parties tout en restant le même corps. Donc ce qui fait son unité, c'est le rapport des différentes parties, donc c'est le fait qu'il s'agisse d'organes, que chacune accomplit une fonction qui la rattache aux autres et qui fait qu'elle contribue au maintien et au fonctionnement du tout. Donc c'est ce qui est permanent, ce ne sont pas les parties, mais leurs relations.
La structure, en fait.
Oui, la structure, l'organisation.
Seulement, le corps, l'identité de structure du corps, elle est reconnaissable de l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas de l'identité personnelle.
Oui, alors, sur ce sujet, alors... Si on reprend le paragraphe 26... Il y a une référence à autrui. Il dit le mot personne tel que je l'emploie est le nom de ce soi. Partout où un homme découvre ce qu'il appelle lui-même, un autre homme, ce me semble, pourra dire qu'il s'agit de la même personne. Donc, il y a, alors je ne l'ai pas cité, mais j'aurais dû, il y a des passages du livre d'Étienne Balibar sujet, tu l'as là.
C'est si tu veux.
Voilà. Donc je retrouverai pas le passage précis, mais c'était pour le citer quand même, parce que c'est la référence en la matière, et je me suis beaucoup appuyé dessus. Donc, Étienne Balibar insiste sur ces passages et nous fait remarquer le fait que personne, c'est le nom que... un nom que les autres nous donnent. C'est un mot que d'autres personnes emploient à propos de moi-même, à propos de ce que moi j'appelle le soi, à propos de ce qui s'appelle soi. En fait, personne, c'est le nom que les autres donnent au soi que je considère comme moi-même. Pour aller dans le même sens, on pourrait dire que personne est un terme judiciaire, donc la personne, c'est le sujet d'une responsabilité. Et la responsabilité consiste à répondre de ses actes. Mais si je dois répondre de mes actes, c'est parce que quelqu'un d'autre me pose une question. C'est parce que je suis interrogé sur mes actes que je dois en répondre. Et donc finalement, il y a toujours une référence à autrui. C'est le rapport à soi qui apparaît comme premier, mais qui est indissociable d'un rapport à autrui. D'ailleurs, on voit bien dans, quand il fait référence aux difficultés juridiques, c'est-à-dire que ce sont les autres, hein, ce sont les juges, les magistrats, qui décident que l'homme saoul et l'homme dessoulé est la même personne. Et c'est bien leur décision qui s'impose. Ce sont les juges, donc d'autres personnes, qui décident que l'homme réveillé et l'homme endormi est la même personne. Et c'est leur décision qui s'impose. Donc finalement, la personne, c'est aussi ce que les autres considèrent comme tel.
Ça pose un problème.
Oui.
Ça pose un problème parce que tout de même, d'un côté, le critère de définition d'identité personnelle, c'est un critère purement interne.
Oui.
Et c'est vrai que si je ne me souviens plus du tout d'un certain nombre d'étapes de mon passé, ce ne sont plus les miennes. C'est-à-dire que mon identité s'étend là jusqu'où je peux avoir des souvenirs, non ?
Oui, ah bah oui, tout hein, l'identité personnelle.
Oui, l'identité personnelle. Ouais, ouais. Mais là, le problème, c'est que, bon, bah, tout de même, je pense au code pénal. Alors, je sais qu'il a été modifié, mais dans l'ancien code pénal, article 64, hein, c'était ça, hein. Bon, et c'est vrai que quelqu'un qui ne veut pas répondre de ses actes parce qu'il est en état délirant, hein, bah, schizophrène, profond, enfin, je veux dire, il peut pas. Bon, il va aller voir des psychiatres, il y aura une expertise. Mais si vraiment il ne peut pas répondre de ses actes, il est considéré comme irresponsable. Normalement, il ne doit pas être jugé. Alors, je sais qu'il y a eu des modifications les dernières. Un certain nombre de lois sécuritaires ont beaucoup changé les choses. Mais c'est vrai que hein, c'est comme ça, normalement.
Oui, oui.
On est d'accord.
Oui, oui, oui.
Alors, donc, c'est pour ça que, d'une certaine façon, c'est vrai que ce qui est dit Locke est très intéressant, parce que ça a beaucoup inspiré tout de même le droit pénal. Mmh. Hein, c'est tout de même. La difficulté, c'est le jugement.
Oui, oui. Mais moi, le passage que j'ai lu tout à l'heure du paragraphe 22 me pose beaucoup de problèmes. Quand il dit « contre lui, il y a la preuve du fait », tandis que en sa faveur, il ne peut y avoir la preuve du manque de conscience. Donc ça, c'est quand même une logique assez terrible. C'est-à-dire que contre la personne qui prétend qu'elle s'était trouvée dans un état d'inconscience, il y a les faits, les actes qu'elle a commis, et en sa faveur, il n'y a rien. Donc on considère que c'est la même personne et la décision est juridiquement légitime, juridiquement valable. Donc c'est un problème, parce que du point de vue de Locke lui-même, elle est à la fois métaphysiquement et moralement fausse ou erronée, et pourtant juridiquement valable.
Ouais,
et c'est pour ça que là, je pointais cette contradiction,
oui.
Mais au jugement dernier, donc finalement, on fait avec les imperfections de la justice humaine, on accepte des injustices, des erreurs, qui seront réparées au moment du jugement dernier, mais avec toujours la même ambiguïté, où finalement c'est Dieu qui juge, mais en fait non, parce que c'est ma conscience. On retrouve exactement la même ambiguïté déplacée dans le cas du jugement dernier. Il ne dit pas « je serai jugé par Dieu », il dit « Dieu me rendra la totalité de mes souvenirs », c'est-à-dire que ce qui en moi est conscience actuelle, ce qui en moi relève de la conscience virtuelle deviendra conscience actuelle, et je serai accusé ou excusé par ma propre conscience. Avec cette fois-ci la conscience morale. Donc finalement, jusqu'au bout, l'ambiguïté, elle n'est pas levée. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes que la philosophie là hérite de Locke et que lui-même n'a pas résolu qu'il n'a pas résolu de manière satisfaisante, finalement, même en faisant appel à l'idée de Dieu, enfin, je crois.
J'ai un peu l'impression que... En essayant de cerner des notions comme de caractère, de mémoire, de conscience, vous avez parlé d'identité, de personnalité, d'excellité, puis à un moment donné, l'âme... de chapeauter tout ça comme une solution englobante vous mettez en parallèle l'unicité de l'âme par rapport à l'unicité du corps. Et puis après, on a l'impression que l'homme découpe tout ça pour essayer de... est-ce qu'il y a derrière cette notion d'âme quelque chose qui essaye de contenir tout ce qui a été décortiqué
Oui, oui, alors, ce qui fait de Locke aussi un
modèle... On passe d'un âge avec l'âme à un autre âge plus moderne.
Voilà. Voilà, c'est comme ça que ouais, j'ai...
Moi, il me semble tout de même que Locke exclut la métaphysique.
Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Un autre aspect essentiel de sa modernité, c'est qu'il part aussi d'une philosophie ou d'une théorie de la connaissance. Et cette théorie de la connaissance, effectivement, elle exclut la métaphysique au sens de connaissance rationnelle des substances ou connaissance de l'essence réelle. C'est-à-dire, le corps et l'âme sont inconnaissables comme substances, c'est-à-dire que nous ne les connaissons qu'au travers de nos sensations, ce qui exclut de connaître leurs propriétés réelles, constitutives. Qu'on ne peut pas aller au-delà de la sensation jusqu'aux propriétés réelles et constitutives des choses. Donc, il faut exclure l'identité de la substance des fondements possibles de l'identité personnelle.
Oui,
c'est poser des problèmes religieux aussi.
Je trouve que dans l'article 9, là, quand il dit c'est je pense un être pensant, intelligent, etc., etc., qui peut se considérer soi-même comme soi-même, une même chose pensante en différents temps et lieux, on pourrait, enfin, je sais pas, ceux qui connaissent Descartes pourraient penser que c'est du Descartes.
Oui.
Alors qu'en fait, c'est pas la même chose. C'est celui, en fond, est une personne, l'individu qui est capable de se considérer comme une chose pensante. Ça ne veut pas dire qu'il est une chose pensante. Toi-même, c'est différent. Hein, c'est la différence. C'est-à-dire qu'il y a tout de même une... Au fond, c'est l'expérience seule.
Oui. Alors, leur point commun, c'est l'identité entre la pensée et la conscience, mais...
Ce qui pose problème aussi, oui. C'est vrai qu'il exclut... Enfin, l'idée d'âme, il l'exclut.
Oui, on a l'impression qu'il est
redéfini. Ah oui, complètement.
Ce qui m'avait troublé un peu, c'est quand vous avez dit, comparé à les approches de la réincarnation.
Oui.
C'est lui qui fait référence.
Oui, oui, il imagine, je ne sais plus s'il utilise le mot réincarnation, mais il imagine.
Ce sont des fictions.
La même chose, oui, ce sont des fictions. Si on imagine qu'une âme se réincarne en différents corps. Après, on lui a reproché hein, sur le plan de la religion ce qu'il a pu dire de l'impossibilité de connaître la substance, parce que ça veut dire que si on ne peut pas connaître l'esprit comme substance, alors il pourrait être matériel. Est-ce qu'on peut pas dire au minimum, comme Descartes, que c'est une substance immatérielle? Du point de vue de Locke, non. On ne peut pas affirmer, on ne peut pas savoir que l'esprit est une substance immatérielle. Et donc, est-ce que ce refus d'affirmer que l'esprit est une substance immatérielle ne donne pas la possibilité de concevoir que l'âme serait mortelle? Voilà. Est-ce que c'est compatible avec la théorie du salut? On lui a reproché, mais il distingue voilà, la raison et la foi. Il y a les questions qui concernent la raison et les questions qui relèvent de la foi, et Locke les distingue clairement. Voilà, en disant que...
C'est vrai qu'il ouvre le chemin au matérialisme. Hein.
C'est vrai.
D'une certaine manière. Hein.
Oui, mais alors, il prétend aussi dans l'essai qu'on peut démontrer l'existence de Dieu. C'est pour ça qu'il a des... pour ça qu'on le considère souvent comme entre deux époques. Il y a des aspects extrêmement modernes dans sa philosophie. Et exclure la métaphysique, c'est pas le moindre d'ailleurs. Hein, je vous remercie d'y revenir. Il y a des, voilà, vraiment des aspects modernes dans sa philosophie. On peut considérer voilà, qu'elle fait partie des œuvres. On ne peut pas dire qu'il y en a une, je pense. Voilà, bon, fait partie des œuvres qui inaugurent la modernité. Mais il y a de nombreux aspects de son œuvre qui le rattachent à la philosophie du Moyen-Âge, notamment, et même là, du coup, là aussi, ça fait un autre point commun avec Descartes. Hein, pour lui, il considère, c'est pas un pas problématique de considérer qu'on peut démontrer l'existence de Dieu. Donc, voilà.
Il y a une question.
En ce qui concerne la responsabilité, l'homme, disons, pour qu'il soit responsable de ses actes, il faut qu'il soit conscient. Mmh. Maintenant, dans l'exemple du paragraphe 22, l'homme sous qui provoque un accident, par exemple, ne serait pas responsable, mais le seul fait de son état d'ébriété est une circonstance aggravante.
Ah oui, non, évidemment, non.
Deux fois responsable.
J'ai l'air d'hésiter, mais pas sur le fait que ce soit une substance aggravante. Oui, vous voulez.
Tu sais pas, à l'époque, c'était pas une circonstance aggravante. Pendant longtemps, le fait d'être alcoolisé, ça a été au contraire une circonstance.
D'accord, là, je confesse mon ignorance, mais oui. Là, je reconnais mon ignorance, je sais pas comment c'était considéré à l'époque, mais. D'accord. Alors, oui, mais de toute façon, en toute rigueur, quand si un individu provoque, par exemple, un accident en état d'ébriété, ou disons, alors peut-être, et du coup là, c'est pas, ça fonctionne pas très bien, mais on ne punit pas pour son ébriété, On le punit pour l'accident qu'il a provoqué. Alors, on peut punir pour son ébriété si c'est interdit sur la voie publique, si c'est interdit au volant, mais d'une manière générale, un individu ivre provoque un accident, ce n'est pas l'ivresse qui est sanctionnée, c'est l'accident qu'il a provoqué.
Oui, mais c'est quand même l'ivre.
On fait tout de même la différence entre un homicide volontaire et un homicide involontaire. Hein, c'est vrai que si je tue quelqu'un sans faire exprès parce que j'étais dans un état j'avais pris de la drogue, pas pareil que si je l'ai tué froidement.
On est aussi on est dans le cas d'une conception individualiste et libérale de la responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est individuelle, elle ne peut pas être collective, il n'y a aucun fondement d'une responsabilité collective. Donc la responsabilité, par définition, elle est individuelle et elle est strictement limitée aux actes dont l'individu est, disons, l'auteur, au moins, du point de vue de Locke. L'auteur au sens qu'il reconnaît comme les siens. Et donc, ça pose de nombreuses difficultés de toute façon.
Mais je reviens à Jekyll et Hyde. Jekyll prend délibérément une substance pour se transformer en Hyde, pour pouvoir vivre une vie fonctionnelle pure. Et il sait très bien ce qu'il fait, et il a tout à fait conscience de ce que fait Hyde et de ce que c'est.
Il n'y a pas une coupure.
Non.
Il n'y a pas une coupure, il le vit très mal, et il est finalement complètement happé par la personnalité de Hyde qui finit par l'aspirer complètement. Et Hyde en même temps a besoin de Jekyll parce que ça lui permet de se réfugier dans une personnalité dite respectable. pour échapper. Mais il triche sciemment avec la responsabilité l'un comme l'autre.
Donc, c'est peut-être pas un exemple parfait, parce que là, dans le paragraphe 20, il prend l'exemple de quelqu'un qui serait vraiment presque amnésique, qui ne se souviendrait quasiment plus de son passé. Est-ce que ce serait la même personne ?
Ah non ?
Dans la question.
Ah oui, tu poses la question. Pour l'autre, non.
C'est clair, hein, c'est non. C'est-à-dire que l'amnésie, c'est la ruine de l'identité, point.
Ah oui. Hein ? De l'identité personnelle.
Personnelle, bien sûr.
Mais bon, c'est vrai que les autres, on reste le même homme, mais...
Mais alors le sommeil, on oublie. Ça pose un problème, quand même, le sommeil, ou les trous de mémoire, ou les...
Non, on n'est plus une personne quand on est profondément endormi, que pour l'heure qu'on est dans un état d'inconscience, on n'est plus une personne. Comme quand on est dans le coma, on n'est pas une personne. C'est-à-dire que voilà, la personne n'est pas, comme chez Kant, le fondement de la dignité. C'est un terme judiciaire et pas un terme moral. C'est-à-dire que la personne, ce n'est pas ce qui a une dignité. La personne, c'est ce qui est responsable. Donc voilà, le concept de personne, il va évoluer, va connaître des déplacements.
C'est quand même surprenant que le même mot, je ne suis personne.
À l'origine, personne, c'est le masque. Hein.
Ouais.
C'est vrai que c'est une notion qui a tout de même pas mal. C'est au théâtre. Hein.
Alors, est-ce que quand Ulysse répond je suis personne, est-ce que le terme, en termes de responsabilité ou en termes. Bon, on connaît le jeu de mots, on l'apprend un peu, mais derrière ce terme-là, il y a quand même effectivement la responsabilité juridique, et puis il y a aussi une sorte de. Je ne sais pas, c'est juste la remarque, je ne sais pas si étymologiquement ça se justifie, enfin, si j'ai une bifurcation.
Il y a tout de même quelque chose peut-être qui a un lien, c'est comme tu l'avais dit, la personne c'est celle qui répond de ses actes devant autrui tout de même. Mmh. Donc un peu comme, il faut même comment dirais-je, la personne n'existe que sur la scène publique, elle n'est pas purement. Mais bien sûr, si le critère d'identité personnelle est intérieur, il n'en demeure pas moins, comme tu l'as bien dit, effectivement, qu'elle fonde la responsabilité judiciaire, donc par conséquent, elle répond devant autrui, hein, devant ses juges, de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait. C'est peut-être ça qui fait le lien. Enfin, ouais. Il y a une chose aussi, enfin, parce que nous, on a beaucoup lu Sartre cette année.
Oui.
Et là, il y a quand même une différence entre la conception de la conscience.
Ah oui, parce que. Oui.
Ah, qui est celle de Locke, qui est une conscience réflexive.
Oui.
Hein, c'est une conscience réflexive. Et elle, c'est elle qui fonde, au fond, l'identité personnelle, puisqu'elle demeure. En fond, c'est l'élément permanent, la conscience réflexive, pour Locke. Il y a quand même quelque chose comme un moi, tout de même. Alors que on a bien
Enfin, c'est littéralement la même, actuelle ou virtuelle.
Oui, c'est la même. Ouais, donc c'est la même. Il y a quelque chose qui demeure. Oui. S'il n'y avait pas quelque chose qui demeurait, il n'y aurait pas, cette appropriation du passé, il n'y aurait pas la mémoire. Alors que là, pour Sartre, par exemple, la conscience, elle peut très bien être. D'ailleurs, elle n'existe pas. Elle existe indépendamment du moi. Il n'y a pas de moi. Le moi n'existe que parce que je suis confronté au regard d'autrui. Il n'y a pas d'identité personnelle tant que je suis seul. Il y a une pure conscience qui est présente à soi, qui est irréfléchie. Hein. Il n'y a pas de conscience de soi au sens où nous l'entendons, une conscience réflexive. Cette conscience réflexive, elle ne peut vraiment se mettre en mouvement, elle ne peut apparaître qu'à partir du moment où on est confronté... aux autres, hein, que finalement on réfléchit sur l'image qu'ils nous renvoient, c'est tout, hein, et qu'on intériorise. Mais sinon, il y a. Alors justement, c'est moderne, mais en même temps, là, il y a une différence très 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 claire entre les deux auteurs. Hein.
Oui, Locke, c'est un problème aussi pour la théorie de la connaissance. Il souligne aussi que chaque expérience, donc chaque sensation, perception est privée.
Oui.
D'emblée, la sensation est privée. Donc ça ne veut pas dire rattachée à un moi comme substance, mais ça veut dire qu'il y a d'emblée une séparation, une extériorité des différentes expériences.
Oui.
Voilà. Après, voilà. Ce qui est étonnant, c'est le fait que cette permanence de la conscience est détachée de la permanence d'une substance, qu'elle peut se retrouver identique à elle-même dans n'importe quelle substance, en n'importe quel nombre.
On peut considérer que c'est une pétition de principe. De toute façon, parce que quand même...
Alors, ça fait partie des critiques que Leibniz lui adresse. Leibniz se dit, il relie complètement l'essai philosophique sur l'entendement humain de John Locke. Il le lit et il répond à chaque paragraphe dans ses dialogues. Et puis, il dit que oui, c'est un peu... On peut bien supposer une conscience détachée de toute substance, mais disons que la supposition est un peu gratuite parce que si elle est détachée de toute substance, d'où lui viennent ses perceptions? Elle ne perçoit rien par elle-même détachée de toute substance. Donc voilà, cette expérience de pensée, c'est vrai que Leibniz la considère déjà un peu effectivement comme une pétition de principe.
Mais est-ce que est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la conscience collective, la mémoire collective, ou alors c'est complètement différent?
Non, il n'y a pas de...
Parce qu'il n'y a pas de substance dans la conscience collective, il n'y a pas...
Oui, mais la conscience en elle-même est un principe d'appropriation. La conscience est ce qui fait qu'un soi s'approprie quelque chose et qui s'approprie d'abord lui-même à lui-même. C'est-à-dire que se reconnaître, je ne sais plus quelle est la forme, se considérer soi-même comme soi-même, c'est un processus d'appropriation de soi que Locke traduit politiquement dans le principe de propriété de soi. Et donc, une conscience collective, ce serait une contradiction dans les termes. C'est par définition que la conscience ne peut pas être collective. Le soi, c'est aussi bien c'est un sujet d'appropriation. Donc, si on le traduit en termes politiques, le soi, c'est le sujet de la propriété privée. Et la propriété privée, elle commence par soi. Elle commence par le soi. Le soi, c'est le premier objet de propriété privée.
Ça n'est pas freudien, ça.
Ah non.
L'homme semble mettre chez lui, c'est contraire de ce que dit Freud, ça n'est ni freudien, ni sartrien.
Oui, bah. Oui, c'est vrai, et c'est encore... Bon, voilà, il y a des aspects, un mélange d'aspects modernes et d'aspects anciens qui est assez, assez troublant par moment.
Oui,
oui.
Lier conscience et responsabilité, mais comment peut-on traiter conscience et déni?
Alors, oui, non, c'est... Il y a plusieurs philosophes, Sartre, Simone Veil aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui maintiennent une philosophie de la conscience et qui parviennent à résoudre les difficultés qu'elle pose par la conscience comme déni. En fait, l'inconscient n'existe pas de manière absolue, ce n'est qu'un déni de conscience ou un déni de la conscience. Ouais,
là,
ouais, voilà. Donc, Ça, c'est pas possible non plus chez Locke. La conscience, elle ne peut pas dénier quoi que ce soit, elle ne peut pas refuser quoi que ce soit. Je ne peux pas refuser de m'approprier une action dont je me souviens. Parce que me souvenir de cette action signifie la reconnaître comme mienne.
Mais quand on refuse de reconnaître une action, le déni, c'est ça ?
Le déni, c'est face aux autres. Disons que c'est pas possible face à sa propre conscience. Face au tribunal de la conscience morale, le déni est impossible. Je sais ce que j'ai fait. Et je ne peux pas, d'ailleurs là j'élargis un peu, on ne peut pas non plus se tromper. Il n'y a pas de fausse mémoire. On peut pas, non, on peut, alors on peut dire que non seulement on ne peut pas refuser de s'approprier une action que l'on a commise et dont on se souvient, mais on ne peut pas non plus s'approprier une action que l'on n'a pas accompli. C'est-à-dire que la mémoire est infaillible, parce que la mémoire, ce n'est pas l'imagination. Si vous partez du principe que la mémoire, c'est la conscience virtuelle, la mémoire, c'est la perception. Or, je ne peux pas percevoir quelque chose qui n'a pas lieu ou qui n'a pas eu lieu. D'accord ? Donc, on peut imaginer des choses, mais on ne peut pas s'approprier des actions par erreur, on ne peut pas se souvenir de quelque chose qu'on n'a jamais fait.
Non, mais le déni, c'est refuser d'accepter quelque chose qu'on ne veut pas avoir fait.
Mais du point de vue de Locke, c'est impossible. Ah, c'est ça que tu...
Oui.
Du point de vue de Locke, c'est impossible. C'est une... sa théorie de la mémoire rend impossible cette hypothèse.
Ça n'autorise pas, oui, la solution de Sartre.
Oui, voilà.
Ça n'autorise pas à ramener l'inconscient à une conscience de mauvaise foi. C'est pas une solution qui est ouverte ou qui est possible à partir des prémices de Locke.
Mais la conscience ne peut pas se dissimuler ce qu'elle sait.
Et pourtant, le déni est bien réel.
Ah non, mais.
On peut lire aussi, c'est le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Et là, c'est pas tout à fait le corps, mais c'est la toile, c'est le tableau qui garde trace de la vie de débauche, du beau jeune héros, etc. Mais à la fin, à sa mort, on retrouve sur le corps les stigmates de tout ce qu'il a connu, de tout ce qu'il a vécu en pleine conscience, mais c'est encore quelqu'un qui cherche à échapper à sa responsabilité, puisque c'est sur le portrait qu'il se décharge de sa mauvaise vie.
Je trouve ça plutôt dans le sens de Locke, là, pour le coup, l'idée que avoir conscience d'un acte, c'est le reconnaître comme sien, être tenu d'en répondre, et donc ça implique un certain poids, et on peut chercher à fuir sa responsabilité, donc dans le déni, mais en fait, ces tentatives, elles sont nécessairement vaines, puisque la conscience, de toute façon, elle est par définition un rapport à soi. Donc, il a défini presque comme... elle est en elle-même, c'est déjà un rapport d'identité, la conscience. Et dans son essai, Locke insiste sur le fait que l'identité, c'est une relation. Quand il s'agit d'idées, il dit « l'identité, c'est la relation qu'une idée entretient avec elle-même ». Donc l'identité de la conscience de soi, c'est une relation à soi. Et cette relation à soi, elle définit la conscience. Donc il y a peut-être des tentatives de déni d'échapper à ses responsabilités, mais du point de vue de Locke, non, c'est pas possible.
En fait, ce que tu as montré, c'est que, au fond, ce qui est oublié, oui, c'est ce qui ne s'intègre pas dans notre identité.
Oui, alors, en toute rigueur, il ne faudrait pas dire que ce qui est oublié ne s'intègre pas à notre identité. Il faudrait dire ce dont il est impossible de se souvenir, donc ce qui n'a jamais été conscient, ne s'intègre pas à notre identité.
Et alors, justement, parce que là, c'est très bien, que fait-on de l'hypothèse de l'inconscient, par exemple? Est-ce qu'il y a alors, le déni et toutes ces figures donc là, c'est quelque chose qui a peut-être été su, mais qui a été occulté, refoulé, et dont on ne peut plus se souvenir. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il envisage.
Non. Et puis, de toute façon, il y a Dieu qui, au jugement dernier, fait remonter tout le refoulé à la conscience. Et,
voilà.
Et là, on est face... on passe un mauvais moment.
Oui.
Je voudrais, sur le terme de souvenir, vous l'avez appliqué. Or, on a compris que le passé, finalement, il était toujours là. Et que la mémoire, c'était la. Enfin, moi,
c'est que j'ai... Oui, c'est vrai, non, mais c'est juste, finalement. Ouais,
mémoire,
oui, tout à fait.
La conscience d'un passé, mais un passé qui n'est pas passé, parce qu'il est toujours. Enfin, il est...
Oui, il y a une conscience virtuelle qui reste. Oui, vous avez raison, parce que.
Donc la notion de souvenir, est-ce qu'elle a. Est-ce que c'est vraiment une notion philosophique?
Disons qu'ici, le souvenir, c'est une modalité de la perception. C'est percevoir une perception comme passée.
Oui, mais en même temps.
C'est avoir une perception que l'on reconnaît comme passée. C'est un peu étrange. Mais... C'est un peu étonnant, mais c'est une modalité, non, c'est pas étrange, c'est une modalité de la perception. Voilà. Le souvenir, c'est une forme de perception. Mais c'est vrai que cette idée de conscience virtuelle, ça suppose que ça a l'air de supposer, c'est pas explicite, que le passé demeure d'une manière ou d'une autre. Alors, par une activité de l'esprit.
Bah, oui, mais enfin...
Mais virtuelle.
Le passé.
Oui. Enfin, pour revenir à Locke, moi je pense que, enfin je sais pas, enfin, tu me diras si c'est vrai, si c'est faux, mais il m'a semblé, tu l'as dit d'ailleurs, que ce qui est vraiment oublié, il y a tout de même de l'oublié, quoi. Et ce qui est vraiment oublié, que non, vraiment qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se souvenir, petite enfance, ça n'existe pas. C'est dans les oubliettes. Enfin, c'est. Hein, c'est alors que bon, on prend une philosophie comme celle de Bergson ou celle de Freud, ce qui est oublié est préservé.
Oui, parce qu'en réalité, oui, tu as raison. En réalité, il y a des moments de notre existence. Alors, est-ce qu'ils ont été conscients pleinement? Mais bah, il y a des moments de notre existence qui ont été conscients et qui pourtant échappent à notre mémoire. Et ça, Locke en rend difficilement compte, puisque, finalement, la mémoire et la conscience, c'est la même chose. Donc, oui, c'est un des problèmes. J'avais mis dans le sommaire, hein, il soulève peut-être davantage de problèmes qu'il n'en résout, mais les problèmes qu'il soulève sont ceux de la philosophie moderne. Voilà, mais alors, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose de résolu à la fin d'identité et différence. C'est plus. Mais comme la question en elle-même est tellement nouvelle, les concepts, les notions qu'il utilise pour la traiter sont tellement nouvelles que voilà, c'est quand même quelque chose d'important dans l'histoire de la philosophie.
Comment on répond à la question que vous avez intitulée?
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas répondu. Alors là, faudra que je m'en souvienne quand je le reprocherai à mes élèves.
La réponse est le malheur de la question.
Oui. Bon, j'arrête pas de leur faire remarquer. On vous pose une question, le minimum, c'est de répondre.
Bref. Ben voilà.
La mémoire fait-elle l'identité? Alors. Dans le cadre de Locke, oui, et on apporterait, la nuance qu'on est en train d'apporter, c'est qu'en réalité, c'est la conscience, voilà, qu'il n'y a pas lieu de distinguer de manière essentielle mémoire et conscience, et que c'est la conscience actuelle ou virtuelle qui fait l'identité en précisant l'identité de la personne. Voilà, et ça, bon. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le confronter avec Bergson, parce que Bergson conserve la mémoire, une forme de mémoire comme fondement de l'identité, mais par contre, c'est plus du tout la conscience.
Oui, elle est essentiellement inconsciente.
Ouais, oui, quand même. Ouais.
Elle est, et la conscience, elle est élective.
Oui.
Hein, c'est ça. La conscience refoule.
Oui. Hein, oui, bah le coup de force, le coup de génie de Bergson, c'est d'inverser les problèmes.
Tout à fait.
C'est de voilà, on cherche toujours à expliquer comment on se souvient du passé, donc on formule le problème. On parle du principe que le passé n'est plus, on se demande comment il peut être saisi. On suppose que la mémoire c'est une activité de l'esprit, et Bergson, comme pour d'autres questions, il renverse complètement la perspective et dit en fait on n'a pas résolu le problème parce qu'on l'a mal posé. On n'a pas su répondre à la question parce qu'on a mal posé, on a posé une question qui ne correspondait pas au problème réel. Et donc, oui, pour Bergson, c'est l'oubli qui est une activité de l'esprit. La conservation du passé, elle fait aucune difficulté.
Et du coup, la manière dont ils apprécient l'un et l'autre l'oubli est très différente. L'oubli, pour Locke, c'est quand même un oubli tragique. C'est un effacement d'identité.
Ah oui, oui.
C'est une rupture du lien au passé, donc c'est un naufrage. Alors que pour Bergson, c'est une préservation du passé. Il continue à être là, même si, bien sûr, nous n'en sommes pas conscients. C'est tout même, et je dirais que Freud est plutôt du côté de Bergson.
Ah oui, bah oui.
Par rapport à l'identité, la mémoire peut avoir des trous, mais pas la conscience.
Alors, il y a quand même des moments où elle cesse d'être là. C'est encore un problème. Enfin, voilà, ils s'enchaînent, mais c'est toujours un... Ce qui se passe quand on essaie de réfléchir sur identité et différence, s'il y a des moments d'inconscience, ça veut dire qu'il y a des moments durant lesquels nous ne pensons pas, et donc des moments durant lesquels la conscience est absente, ou la conscience n'est plus. Et pourtant, le moment d'après, elle est de nouveau là, comme, à la fois comme conscience actuelle et comme conscience virtuelle qui comprend en elle-même la totalité de ses actes passés. Et donc ça, c'est vrai que c'est difficilement explicable. Comment elle peut cesser d'exister quand nous sommes dans le coma, quand nous sommes dans un sommeil profond, quand nous sommes dans un état d'ivresse, et recommencer à exister avec la totalité de son passé l'instant d'après? Ça, pour Locke, voilà, ça relève des limites de notre connaissance. Nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas de connaissance de la substance à laquelle elle se rattache.
Ouais, il pense aux limites de la connaissance.
Oui.
Fait. C'est vrai que le matin, en se réveillant, c'est quand même bizarre qu'on se souvienne de ce qu'on a fait la veille.
Oui.
Quand on y réfléchit, c'est un peu...
Alors, Leibniz répond...
Oui, oui.
À ses difficultés, il résout ses difficultés par l'inconscient aussi.
Oui, oui, oui. Oui.
Voilà, pour Leibniz, c'est absurde de penser qu'il y a des moments durant lesquels nous ne pensons pas. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des moments durant lesquels nous cessons d'être. Donc si nous sommes de manière continue, nous pensons de manière continue. Et voilà, il n'y a qu'un pas. Ensuite, il faut faire le dernier pas, qui est qu'il y a des moments durant lesquels nous ne pensons pas de façon consciente. Et ça, Locke,
c'est l'inconscient qui permet de penser la continuité en fait, de
voilà.
La mentale.
Oui.
Mais quand on cherche la solution d'un problème, c'est parfois en n'y pensant plus qu'on trouve la solution. Donc on continue à penser malgré tout, mais on veut dérader.
Oui.
On résout des équations la nuit.
Voilà. Oui, mais voilà. Oui, 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 bien sûr. Ça, Locke, il explique par le malaise ou l'inquiétude. Uneasiness, pardon, je prononce très mal l'anglais. Ça l'explique par le fait que, j'avais dit rapidement, hein, qu'il y a pas, que toute idée, elle s'accompagne d'une forme de douleur, ou d'inquiétude, ou d'inconfort, qui fait que, presque de manière automatique, hein, de manière mécanique, nous passons d'une idée à l'autre. Voilà. Simplement parce que toute idée s'accompagne d'un affect, toute idée en suscite une autre. Et dans les moments où nous sommes conscients, la pensée est toujours active. Hein, parce que cette pensée qui disparaît par moment, quand elle est là, elle est toujours active. Ce qui rend encore plus difficile de comprendre qu'elle puisse disparaître et réapparaître. Ah, mais ça, pour Locke, voilà, ça s'explique très bien qu'on puisse résoudre des équations, alors peut-être pas en dormant, mais dans des moments où nous ne sommes pas maîtres de notre pensée, nous ne sommes pas maîtres de nos idées. Ça, c'est possible.
C'est même assez fait.
Pour, oui. Oui, oui. Oui.
Et Stevenson a écrit Docteur Jekyll après avoir fait un rêve, enfin un cauchemar. Sa femme l'a réveillé, il lui a dit qu'est-ce que tu fais là, j'étais en train de penser à une histoire d'horreur géniale. C'est assez étrange aussi.
Stevenson, c'est quelle date exactement?
Docteur Jekyll, c'est les années 1880.
Oui, oui. Je crois que, en fait, John Locke, hein, c'est vraiment, enfin, peut-être pas présenté, mais c'est vraiment un grand philosophe qui vraiment marque l'avènement, oui, de la pensée moderne, hein, enfin, par rapport à ce que tu as dit, puis aussi sur le plan politique. Hein, quand même. C'est quand même le penseur du libéralisme. Hein. C'est...
Oui, j'ai fait allusion, c'est difficile d'articuler les traités politiques et l'essai sur l'entendement humain.
Ouais.
Mais bon, il y a quand même, voilà, il y a des points communs. Et ces traités politiques sont assez contextualisés, sont des interventions dans un contexte particulier, mais c'est vraiment, ouais. C'est vrai aussi un des fondateurs du libéralisme.
Ah oui, c'est un grand morceau.
Hein. Ah oui.
Tout à fait.
Et si on retrouve, hein, là, Jessie, l'importance de la notion de propriété, on retrouve aussi une forme d'individualisme quand même dans l'essai sur la connaissance. Parce que la responsabilité peut être collective, c'est une autre question, mais est-ce qu'on peut à la fois fonder la... lier conscience et responsabilité et penser une responsabilité collective. En tout cas, une conscience collective pour Locke, c'est...
Non. C'est une notion très moderne, hein. D'ailleurs, enfin, est-ce que c'est une analogie? Est-ce que... Enfin, c'est pas ça. Question? Tu regardes, hein?
Oui.
Bon, je crois qu'effectivement, on va pouvoir clore la séance. Et je remercie
Anne Boarman.
Merci beaucoup
pour vos questions. Merci. Merci à toi, merci à vous pour vos questions.
Et donc, je dis au